Et attention, je vais dire une phrase qu'il faut surtout pas sortir de son contexte. Je suis pas du tout pour l'égalité homme-femme. Et la suite de la phrase qui est importante, c'est que je suis pour l'équité. Et en fait, voilà, pour moi, l'équité est beaucoup plus importante que l'égalité. Et du coup, bah, si on n'est pas pareil, on va pas forcément avoir envie des mêmes choses. On va pas forcément. Enfin voilà. Donc après, c'est une phrase vraiment très générale. Ça vaut pour plein de choses. Ça vaut pas spécialement pour le côté professionnel, mais voilà, il y a des métiers où il y a effectivement plus d'hommes que de femmes, parce qu'il y a plus d'hommes qui sont attirés par ça. Voilà, après, c'est un débat qui pourrait durer des heures sur un tas de sujets différents, sur les jouets pour les enfants, rien que ça peut être un grand débat. Mais clairement, moi, je suis complètement pour l'équité, en tout cas.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Hélène Doué, photographe basée à Lille et spécialisée dans plusieurs thématiques, comme par exemple la photographie de studio, de portraits, de couples, mais aussi de photos underwater. Hélène nous parlera de ses débuts dans la vidéo puis la photo, comment elle gère son activité, comment elle fixe ses tarifs et plein d'autres choses encore. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Hélène et vous souhaite une bonne écoute.
Bah bonjour Hélène, est-ce que tu peux te présenter ?
Eh bien du coup, je m'appelle Hélène. J'ai 37 ans, je suis de Lille, je fais de la photo depuis 10 ans et je suis spécialisée en portrait pour les pros et pour les particuliers, en studio mais aussi à domicile ou en entreprise, en extérieur, et je fais aussi quelques photos sous l'eau.
Ok, ouais, effectivement, là, autour de toi il y a quelques images et de l'underwater. Tu t'es formée comment pour ça ?
Alors j'ai commencé toute seule comme une grande en me disant que j'avais déjà fait de la plongée, enfin que j'avais fait de la natation synchronisée quand j'étais jeune, donc je me disais ça va aller. En fait non, c'est super compliqué. Et donc j'en ai fait un petit peu en 2018, et en fait en fin d'année je suis tombée enceinte, donc du coup ça a été un peu mis en pause. Et quand j'ai voulu reprendre après la naissance de mon fils, je me suis dit qu'en fait il fallait que je fasse un mentorat quand même, donc j'ai fait une formation avec Alison Barnes en gros je l'ai fait en mentorat parce que je voulais vraiment qu'elle réponde à des questions précises que j'avais, parce que voilà, j'avais quand même déjà une première expérience, enfin quelques premières expériences, mais il y avait des choses sur lesquelles je bloquais, donc du coup voilà, ça m'a permis d'avancer plus vite là-dessus en étant accompagnée plutôt que toute seule dans mon coin.
Mmh. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la photo professionnelle ? T'en faisais un peu avant en tant qu'amateur ou...
En fait, de base, moi, j'ai un cursus artistique. J'ai fait 3 ans d'études d'art appliqué. Donc après, j'ai eu un parcours un peu chaotique, on va dire un peu original, où j'ai voyagé, j'ai fait des choses un peu hors du commun. Et quand je suis rentrée en France, du coup, bon, j'ai travaillé comme salarié, j'ai fait la voie du métro à Lille pendant 4 ans et j'ai fini par quitter ce travail-là et je me suis lancée dans la vidéo parce que je faisais un peu de vidéo de mon côté. J'ai envie de dire comme un peu tout le monde fait un peu de photos et de vidéos aujourd'hui, on a les moyens pour assez facilement, donc voilà. Et en fait, du coup, j'ai fait de la vidéo à titre professionnel et à côté de la photo. Et au final, c'est la photo qui a pris le pas au bout de 3 ans et donc du coup, je fais beaucoup plus de photos aujourd'hui même si je fais encore un peu de vidéo.
D'accord. Et donc là, tu as un studio, tu fais venir directement les clients ici.
C'est ça.
C'est quel type de client que tu as ?
Bah, du coup, comme je disais, particulier comme professionnel. Globalement, je fais plus de particuliers, mais après, en chiffre d'affaires, les professionnels représentent quand même une grosse partie aussi sur moins de prestations. Donc, on va dire que ça s'équilibre à peu près. Je fais pas mal de grossesses et de bébés. Et puis, je fais aussi du boudoir. Et puis, voilà, des portraits de manière large, quoi.
D'accord. Ouais, c'est très, très éclectique.
C'est ça.
C'est super. Et qu'est-ce que tu préfères faire ?
Ah, c'est une grande question. J'aime bien le portrait de manière large. Donc tant que c'est de l'humain, en fait, moi, ça me plaît. J'ai pas envie d'aller photographier de l'architecture ou voilà, des choses où il n'y a pas d'humain. J'aime beaucoup la grossesse parce que j'aime bien discuter avec les futures mamans, parce que j'adore ce côté, étant moi-même maman, j'adore discuter de la maternité et tout ça. Donc j'aime bien ce côté accompagnement, mais ce que j'aime bien, c'est changer en fait et faire des choses différentes. D'une journée à l'autre, d'avoir des échanges qui sont différents, y compris avec les pros, d'avoir voilà, de rencontrer plein de personnes qui vont être d'horizons différents et puis du coup d'avoir quelque chose qui est vraiment riche en fait au quotidien et de pas m'ennuyer.
Comment tu fais pour trouver tes clients ?
Principalement via mon site. J'ai un site qui est très très bien référencé. Je suis en première position sur Google pour Photographe Lille par exemple, et puis pour pas mal d'autres mots-clés. Donc forcément c'est un énorme canal, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent comme ça. Après, bon, j'ai des réseaux sociaux, j'ai surtout Facebook et Instagram. Donc c'est soit des gens qui vont me trouver aussi directement via les réseaux sociaux, soit aussi pas mal de recommandations, notamment sur des groupes sur Facebook. J'ai envie de dire, en termes de réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qu'il y a de plus, en fait, c'est de la recommandation de bouche à oreille sur les réseaux sociaux, quand les gens disent « Ah bah, je cherche un photographe », et puis voilà, il y a mon nom qui va sortir, et du coup,
d'accord,
les gens me contactent comme ça.
Genre sur Facebook, par exemple ?
Ouais.
Ouais. Trop bien, c'est-à-dire que le réseau n'est pas complètement mort.
Bah, en tout cas, moi, sur Facebook, je trouve que les groupes fonctionnent encore pas mal. Ce qui a un peu remplacé les forums, on va dire, il y a quelques années de ça. Maintenant, je trouve que Facebook a un peu pris le relais là-dessus en termes de groupes, parce qu'il ne va pas y avoir cet échange sur Instagram ou sur d'autres réseaux, pour les plus jeunes, TikTok et compagnie. Il n'y a pas ce côté communautaire qu'il va y avoir sur les groupes sur Facebook. Et du coup, je trouve que ça fonctionne encore pas mal comme ça.
Ok. Tu fais de la pub sur Facebook aussi un peu ?
Alors j'en ai fait très très peu, ça m'arrive une fois de temps en temps d'essayer. Après je pense que je mets pas assez de budget pour que ça ait un vrai impact. Honnêtement, non, j'en fais quasiment pas. D'accord. Et comme globalement j'en ai pas vraiment besoin parce que j'arrive à booker sans, je t'avoue que je vois pas vraiment l'utilité.
Okay.
Puis je pense qu'il faudrait une vraie stratégie. Si je voulais vraiment pousser ça un jour, je pense que je prendrais une boîte qui s'occuperait de ça pour le déléguer et puis qu'il fasse ça bien. Mais là, les quelques fois que j'ai testé, voilà, je mettais vraiment pas grand-chose, c'était vraiment hyper ponctuel.
Tu parlais de référencement parce que tu es bien référencé sur Lille. Vous êtes beaucoup de photographes sur Lille dans ton secteur ?
Je connais pas le chiffre, mais oui, on est énormément. Ouais, bah, enfin, les Hauts-de-France, c'est une des régions les plus peuplées, je crois. Donc oui, clairement, il y a énormément de photographes. Franchement, j'ai aucune idée des chiffres, mais je crois que c'est en milliers.
Ah ouais.
Ouais.
Et les gens,
alors peut-être pas sur l'île même, mais en tout cas, enfin moi je suis pas sur l'île même, je suis sur la métropole lilloise et globalement je travaille avec des gens de plus ou moins de tout le département, voire même de toute la région parce que je vais aussi un peu sur la côte. Donc ouais, et puis j'ai des gens parfois qui m'aiment même d'autres régions, parfois ponctuellement. Typiquement pour des séances underwater, oui, on n'est pas énormément à le faire. Je peux avoir des gens qui font pas mal de kilomètres pour venir. Donc ouais, je pense que ça se compte en milliers, mais j'ai pas de chiffre exact.
D'accord. Comment tu l'aperçois, cette concurrence, justement ?
Ben moi, je ne l'aperçois pas comme de la concurrence. J'ai plutôt tendance à parler de mes collègues. Après, je ne les connais pas tous, hein, mais en tout cas, pour ceux que je connais, en général, ça se passe plutôt bien. Je te parlais des groupes Facebook. Tu vois, on est sur des groupes où on échange entre nous. On va s'organiser des événements ensemble. Je fais partie de la FFPMI aussi, la Fédération Française des Photographes et des Métiers de l'Image. Je crois que je me suis trompée dans une lettre, mais bon, bref. Et du coup, pareil, on organise des événements entre nous, des petites sorties, des choses comme ça. Donc, il y a un côté un peu aussi de groupe. Il y a une émulsion collective. Donc, en fait, pour moi, il y a plus d'échanges que de concurrence, en fait. Et puis, on peut très bien s'envoyer des clients quand on n'est pas dispo ou ce genre de choses. Donc, je pense que l'idée, c'est de... Si on fait tous monter le niveau général... Bah, on est quand même encore, même s'il y a beaucoup de monde, il y a quand même encore beaucoup de demandes. Et je pense qu'il y en a pour tout le monde et qu'il n'y a pas besoin de se tirer dans les pattes. On peut tous réussir à sortir notre épingle du jeu sans avoir besoin de voir les autres comme des concurrents.
Ouais, tu sens que les clients sont... Enfin, il y en aura toujours, il n'y a pas de problème par rapport à ça, au niveau de la demande ?
Bah, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas. Je pense que la demande est là, c'est aussi à nous de la créer, de montrer notre plus-value, parce qu'aujourd'hui, les gens ont tous un smartphone qui fait des bonnes photos. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir un appareil photo aujourd'hui, clairement. Tout le monde a dans sa poche de quoi faire des photos correctes en termes de qualité. Donc maintenant, il faut leur montrer quel est l'intérêt d'avoir un photographe pro, ouais. Qu'est-ce qu'on apporte, pourquoi on a une plus-value. Et puis ça, en plus, on a chacun notre plus-value aussi. Chacun va avoir sa spécialité, chacun va avoir son œil, son style. Donc, clairement, ouais, je pense qu'il y en a pour tout le monde sans souci.
Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Tu l'as dit, il y a les appareils photo qui sont de plus en plus abordables, enfin avec l'iPhone ou le téléphone. Mais tu as aussi l'IA, tu sais, de plus en plus, tu as des applications qui permettent, une fois que c'est plugé à Midjourney ou Stable Diffusion, de créer, ben, tu vois, les photos que j'ai sous les yeux en ce moment où on voit où tu as travaillé ta lumière studio, où tu es sous l'eau et tout, ben c'est con, mais maintenant on peut coller le visage de quelqu'un sur n'importe quelle autre photo.
Ça fait pas un peu peur, ça?
Moi, j'adore l'intelligence artificielle. Alors, certes, il y a un côté où ça fait un petit peu peur, évidemment, parce que c'est nouveau et que la nouveauté fait toujours peur. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Moi, dès les tout débuts, j'ai commencé à faire des petits tests. Et c'est un truc auquel je. Voilà, j'ai plus tendance à me dire, faut qu'on rentre dans la vague et qu'on la prenne et qu'on surfe dessus, plutôt que de se dire, de se la manger en pleine tronche. Et moi, je suis persuadée, en tout cas, que pour le métier, moi, comme je l'exerce, je pense pas que ce soit un risque dans le sens où moi je fais vivre une expérience aux gens. Quand je les fais aller dans l'eau, clairement, si je leur fais la photo en intelligence artificielle uniquement, c'est pas du tout la même chose. Et pareil, enfin, moi tu vois, je fais beaucoup de photos aussi boudoir où je vais donner confiance aux femmes, où je vais leur montrer, bah t'as vu comment tu peux être belle, même avant de faire les retouches. En fait, j'essaye d'être assez éthique dans mes retouches. Donc si la personne elle se trouve belle et qu'elle reprend confiance en elle en se voyant en photo, c'est super. Maintenant, si tu lui fais une photo entièrement retouchée à intelligence artificielle avec des filtres et compagnie, ben en fait, tu la bousilles sa confiance en elle. Donc, c'est l'opposé total. Donc, pour moi, c'est vraiment une aide qui permet de faire des choses beaucoup plus rapidement et d'aller plus loin dans ce qu'on fait et voilà, qui apporte vraiment un plus au métier. Mais en tout cas, pour notre métier à nous, je pense pas que ce soit un danger si on l'utilise bien. Après, ça ne veut pas dire pour d'autres métiers, je pense qu'il y a un vrai risque que le métier disparaisse. Mais après, encore une fois, hein, faut apprendre à faire avec et puis. Et avancer de façon intelligente et en changeant le métier.
Ouais. Le fait d'avoir plusieurs types de clients, plusieurs types de photos à proposer, des différentes offres, c'est le mot, ça peut te prémunir aussi de ça, tu penses? Le fait de, si tu vois que quelque chose est remplacé en quelque sorte par l'IA, tu peux toujours proposer autre chose. Tu vois, une photo de mariage par exemple, on est quand même loin du moment où les gens utiliseront l'IA pour faire des photos de mariage, je pense.
C'est clair.
Ça sera vraiment glauque à ce moment-là.
Ouais, bah c'est sûr. Quand on est dans du, quand on travaille autour de l'humain et de l'expérience vécue, clairement, pour moi, l'IA n'est vraiment pas une menace. Après, oui, dans tous les cas, il faut savoir se renouveler. Moi, je sais que, par exemple, quand il y a eu le Covid, on était tous là enfermés, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas voir les gens, on ne pouvait pas faire de photos. Bah, j'ai réussi à me débrouiller, à sortir mon épingle du jeu en allant faire des photos où je mettais en scène, je faisais des visios. Alors, on est plusieurs à avoir fait ça. La plupart faisaient les photos directement depuis la visio. Moi, je faisais carrément des mises en scène. Donc, en fonction de ce que je voyais à l'écran, j'allais faire des mises en scène autour dans mon studio. Donc, je reprenais les mêmes couleurs, les mêmes tissus, les mêmes. Enfin, ouais, j'essayais de créer un petit univers. Et du coup, je faisais la photo avec mon boîtier du téléphone au milieu du décor. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut réussir à avancer et puis à faire avec les contraintes qu'on a. Puis, j'avais fait un workshop avec le Turc qui répète beaucoup ça, de dire. C'est la contrainte qui fait la créativité. Donc, moi, je vais à fond là-dedans et je me dis, voilà, si y a un truc qui pose problème, bah, au lieu de se dire, bah, je suis dans la merde, bah, c'est de se dire, OK, comment je peux faire avec, en fait. Et au final, on va plus loin comme ça. Moi, j'ai une phrase que je dis depuis des années, c'est même dans la merde, il y a de l'engrais. Et j'adore voir ça comme ça, de se dire, bah, quand il y a un truc qui va pas, c'est OK, comment je peux faire pour faire germer quelque chose de ça, au lieu de juste le voir, ça pue, quoi.
C'est une vision intéressante. Je crois que c'est. Je sais plus qui parlait de ça aussi il y a pas longtemps. C'est Ryan Holiday. Je sais pas si tu connais cet auteur américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'obstacle et le chemin.
D'accord.
Obstacle is the way. Et du coup, il explique dans tout un bouquin à quel point chaque contrariété que tu vas avoir ou chaque grosse épreuve ou problème devient en fait une partie importante de ta personnalité. C'est grâce à ça que tu évolues et que, ouais.
Complètement. Et le truc, c'est que quand on a le nez dedans, on le voit pas.
Ouais.
Comme quand t'es né dans la merde, tu vois pas. Mais par contre, quand tu vois après bah, tout ce qui va pousser dessus et tout ce que tu vas pouvoir en faire, mais il faut du temps, faut laisser le temps au temps et puis et tu te rends compte. Mais c'est aussi de se dire que justement, quel va être le potentiel et puis d'avoir la conscience de ça, de se dire qu'il va sûrement y avoir quelque chose qui va pouvoir venir et de pas avoir un esprit négatif, donc voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup. C'est surtout dans la branche, dans ta branche de la photo sociale, qu'on trouve plus facilement cet état d'esprit. Moi, tu vois, je viens de la photo de presse et les photojournalistes, on est quand même assez pessimistes globalement. J'ai
Ouais.
l'impression qu'on râle un peu plus que les autres. Et ça se ressent aussi sur la photo d'auteur, tu vois. À l'UPP, par exemple, il y a souvent des. c'est en train de changer, hein. Les équipes changent et tout, et, mais il y avait quand même depuis longtemps un esprit assez négatif sur la concurrence, sur les évolutions technologiques, sur, tu vois, là où la FFPMI a embrassé quasiment l'IA en faisant un prix photo avec de l'IA, l'UPPA, ils étaient en mode, non, il faut interdire ça, on va...
On peut pas l'interdire de toute façon, donc on est obligé de faire avec. Après, moi, j'ai envie de te dire, c'est pas du tout mon domaine, la presse, mais j'ai envie de dire que, justement, il y a peut-être, c'est peut-être le moment de faire valoir votre professionnalisme en se disant, ok, quand je vois une photo de telle personne, que je vois que c'est crédité de telle personne, je sais que je peux avoir confiance, et je sais que c'est une vraie photo, parce qu'aujourd'hui, ça devient un vrai enjeu de se dire, quand je vois une image, est-ce que c'est une vraie image ou pas ? Et tu vois, un petit peu comme tu peux pas faire confiance à tout ce que tu vois sur Internet, mais qu'a priori, quand tu vois que c'est un article qui vient d'un grand nom, d'un journal connu, tu te dis quand même qu'il y a plus de chances que ce soit crédible. Bah, de la même façon, tu te dis que peut-être que s'il y a un nom célèbre, ou en tout cas, voilà, si tu sais qu'il y a une sorte de professionnalisme derrière le nom qui est noté, que ce soit le nom de la personne ou éventuellement le nom du collectif ou quoi que ce soit, et que tu sais que ça, c'est quelque chose que tu peux faire confiance, je pense que justement, ça, c'est une vraie plus-value de se dire ok, là, je sais que je peux avoir confiance et que c'est une vraie image avec une éthique derrière où on m'assure que c'est du vrai et que ce que je vois, c'est pas truqué.
Bah, même ça, c'est compliqué parce que je sais pas si t'avais suivi il y a quelques années, c'était surtout dans la partie presse, un photographe de chez Magnum, qui est une agence très réputée, avait pris de court tout le monde en faisant un sujet avec Stable Diffusion. D'accord. Et le sujet avait été même primé à Visa pour l'image, qui est le festival du photojournalisme. Tu vois. Ouais. Il avait fait un bouquin, il y avait une pub pour le bouquin pendant le festival, pendant une projection devant plusieurs milliers de personnes. Et il a attendu le dernier moment pour dire, au fait, c'est fake de l'IA. Wow. Et là, il y a la moitié de la population qui est tombée dessus en mode, t'es un salaud, tu nous as trahis. Et l'autre moitié qui ont dit, ah ouais, c'est intéressant de voir à quel point on peut se faire avoir nous, justement en pensant que le mec, il fait partie du cercle, donc faisons-nous confiance. Mais en fait, non.
Oui, après, c'était peut-être une façon de montrer, c'était peut-être une façon de dénoncer ça et de faire un sujet là-dessus. Maintenant, une fois que ça a été fait une fois, l'idée, c'est pas que tout le monde le fasse, quoi.
C'est ça.
Mais je pense que pareil, il n'y a pas eu un spécialiste d'astronomie ou quelque chose comme ça qui avait sorti une photo avec du chorizo ou un truc dans le genre et qu'en fait, les gens ont vraiment cru.
Oui, exact.
Parce que c'était lui, justement.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'était exact. Pas du tout.
C'est clair.
Je sais plus le nom, par contre, j'ai plus du tout la référence.
Je vois dans laquelle tu parles, effectivement. Mais c'est ça qui est dingue, en fait. Mais tu vois ça, de toute façon, avec les fake news depuis toujours, les articles où il y a une information complètement détournée, complètement fausse, et parce que ça passe dans tel journal et que le journal se fait avoir, les gens y croient.
Et puis pareil, le film, enfin le documentaire sur la Lune, je sais plus le titre, On n'a pas marché sur la Lune, je crois, un truc comme ça.
Ah, j'ai pas vu ça.
Ah, mais il est excellent, ce truc. Il a été fait il y a un bout de temps, maintenant. Et à la base, c'était... en fait, quand tu regardes le documentaire, honnêtement, tu le regardes, t'arrives à la fin, tu te dis... T'as vraiment l'esprit retourné.
Ouais.
Et tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune ou pas? Et en fait, après, il y a une suite à ça. Faut pas s'arrêter là, parce que t'as des gens qui s'arrêtent là et qui pensent que, voilà, tous les éléments qu'ils ont vus sont vrais, et du coup, ils prennent ça pour argent comptant. Et c'est même... En fait, le gars qui a réalisé ça, il a regretté après coup. Il disait aujourd'hui, il ne le ferait plus. Parce qu'en fait, ce qu'il a mis dans son documentaire a été utilisé aujourd'hui pour créer plein de théories du complot là-dessus. Et en fait, normalement, il y a une suite à ça où il explique comment il a fait, comment il a créé tout ce film, comment il a réalisé ça, comment il te met le doute dans l'esprit. Et en fait, typiquement, voilà, t'as des interviews, par exemple, dans une langue étrangère où le gars, il te parle pas du tout de ça. Et en fait, c'est traduit avec des sous-titres qui ont rien à voir. Ou alors, t'as des trucs qui sont extraits du contexte et qui, du coup, ont fait dire des choses complètement fausses. Et voilà. Et en fait, c'est que ça pendant tout le documentaire. Et tu te rends compte à quel point il faut faire super gaffe à l'info, comment tu la prends. Parce qu'en fait, on peut complètement te manipuler à travers des images, des voix off et des choses. Donc ouais, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un sujet hyper important d'apprendre à prendre du recul sur ce qu'on voit et sur ce qu'on lit et sur ce qu'on entend, quoi. Et moi, tu vois, enfin, j'ai une fille qui va avoir 15 ans, on a fait 4 ans d'école à la maison, ça a été un des sujets les plus importants pour moi de lui apprendre à dire, de prendre du recul sur ce que tu vois, sur toutes les infos que tu reçois, parce qu'en fait, faut toujours remettre en question la vérité, qu'est-ce que la vérité, et c'est pas parce que tu vois des images que ça veut dire que c'est vrai.
Justement, pour parler un peu du studio, quand tu fais venir des clients ici, tu es dans une logique de maîtriser la lumière, de mettre en valeur les gens, tu as parlé d'expérience. Concrètement, comment ça se passe ?
C'est-à-dire en termes de la séance du début à la fin ?
Ouais, comment ça se construit une séance pour des gens qui ne connaissent pas et qui peut-être aimeraient se lancer, qui Même si j'ai l'impression maintenant qu'il y a de plus en plus de workshops, il y a de plus en plus de contenu sur Internet pour apprendre à faire des shootings.
Tu veux dire sur la partie vraiment technique ou...
Un peu tout, à la fois le technique, mais aussi tu sais, la relation que tu as avec ton ouais. modèle.
Alors moi, globalement, quand les gens arrivent, bah, ils arrivent dans la pièce où on est là. Ils arrivent, on discute de leurs attentes, même si je leur ai déjà fait un petit questionnaire en amont de la séance pour voir ce qu'ils voulaient. On voit un petit peu tout ce qu'ils ont rapporté comme tenue, etc. Et en fait, mon studio, j'ai plusieurs espaces. Donc, il y a une partie studio classique avec des fonds unis, des flashs, etc. Donc, où je vais faire vraiment la photo traditionnelle de studio. Et puis après, j'ai tout un espace en lumière naturelle, lifestyle. Donc, avec une chambre à l'étage aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de complet. Donc, les gens, ils peuvent avoir à la fois des photos très posées de studio et avoir des choses beaucoup plus naturelles. Et il y a des gens qui viennent avec l'idée de faire des photos posées et au final, ils vont préférer le naturel et inversement. Donc du coup, j'aime bien pouvoir leur apporter les deux. Et puis voilà, tout va pas à tout le monde en fait. C'est un peu comme les vêtements, tu sais, t'as des morphologies pour certaines choses. Bah, t'as des gens qui vont être plus à l'aise sur certaines poses que sur d'autres. Donc du coup, j'aime bien leur offrir la possibilité de tester plusieurs choses. Et puis comme ça, ils peuvent choisir après ce qui leur convient le mieux.
D'accord. Combien tu factures une séance, par exemple? Ou comment tu fonctionnes? On a déjà reçu des photographes comme Milena Perdriel, que tu connais peut-être, qui parlait un petit peu de ses tarifs et sa façon aussi de proposer des photos après coup.
Ouais. Alors moi, j'ai plusieurs forfaits. Alors tous les ans, je me remets en question. Donc ce que je dis aujourd'hui sera peut-être plus valable dans quelques temps. Mais globalement, j'ai plusieurs forfaits. Si je peux donner la moyenne, le forfait que je vends le plus, il est à 280 €. C'est une heure de séance avec 7 photos incluses. Et en fait, après, les gens reviennent pour sélectionner leurs photos. Donc, je suis un petit peu à cheval entre le côté forfait que beaucoup de photographes font. Et en même temps, je fais quand même des visionnages à mon studio après coup. Et donc, du coup, la plupart du temps, les gens prennent des photos en plus. Donc, du coup, ça augmente le panier moyen aussi. Ça permet aussi de pouvoir choisir s'ils veulent des produits, parce que l'idée, c'est pas de rester que sur du numérique, mais c'est aussi de voir, pour avoir à la fin un vrai support physique de qualité. Moi, je fais du tirage d'art que je fais moi-même. Je fais mes contre-collages d'Ibon aussi. Et puis après, bon, je propose aussi des acryliques et des livres, enfin des albums photos. Mais ça, pour le coup, je continue à les faire parce que... Les acryliques, je n'arrive pas, j'avais investi dans le matériel, mais j'arrive pas, j'ai toujours des bulles d'air, c'est une cata, c'est l'horreur à faire. Et les albums, c'est vraiment encore un autre domaine, donc ça je le délègue aussi. Mais voilà, c'est histoire de dire de faire vivre les photos à la fin, parce que on est la génération qui fait le plus de photos de tout ce qu'il y a eu. Enfin, la photo reste encore récente à l'échelle de l'humanité, mais en tout cas, on en fait énormément. Et au final, quand tu entends le nombre de gens qui perdent toutes leurs photos parce que leur disque a craché, ou alors ils se sont fait voler leur téléphone ou je sais pas quoi, et malgré tous les moyens qui existent aujourd'hui pour sauvegarder en ligne, et ben ils l'ont pas fait. Donc si t'as pas un support physique, ben au final, si ça tombe, tes enfants ils les auront pas, les photos, quoi. Donc c'est assez dommage. Ou alors t'auras des photos pleines de filtres de chiens et compagnie. Et puis des vraies belles photos comme ce qu'on avait à l'époque, on en avait moins, mais on avait des belles photos, on avait quelque chose de super propre, d'intemporel. Moi, je suis vraiment dans le côté intemporel, j'essaie d'avoir quelque chose qui va vraiment rester dans les prochaines générations. Et du coup, je trouve que c'est important, vraiment, c'est une conviction personnelle qu'il faut développer les photos, quoi.
Et justement, est-ce que tu conserves les photos de tes clients sur un disque dur pour eux? Et est-ce que tu le factures d'ailleurs, ça? Parce que je te dis ça, mais mon imprimeur, par exemple, il le fait maintenant. Il conserve les projets de livres photos de tous ses clients. Ouais. Pendant X années, et après, si quelqu'un en a besoin, bah, il facture le fait qu'il est stocké jusqu'à là. Ça devient un modèle économique presque, parce que tu l'as dit, les gens ne pensent pas à faire des sauvegardes forcément.
Alors officiellement, moi, dans le contrat que je fais avec mes clients, je leur dis que je leur garde un mois. Mais en vrai, c'est juste pour me protéger au cas où j'aurai un crash, parce qu'en fait, les photos, je les garde au maximum. Donc moi, déjà, je les supprime jamais de la carte SD tant que ça n'a pas été livré. Donc je les ai sur la carte SD, je les importe dans mon ordinateur. Dès qu'elles sont importées sur mon ordinateur, automatiquement, elles se synchronisent dans un cloud aussi. Donc toutes les photos, tous les RAW et compagnie se synchronisent. Et ensuite, une fois que je les ai livrées, donc elles sont sur leur galerie, là, je vais supprimer après de ma carte SD. Mais du coup, les photos finales, je les garde sur mon ordinateur. Et tout va rester synchronisé. Donc normalement, je perds rien, quoi. Je vais supprimer les autres RAW qui n'ont pas été gardés et compagnie. Donc pour pas quand même garder des centaines et des centaines de gigas sur des séances où au final, normalement, on les garde pas. Mais donc les finales, je les garde et le reste reste synchronisé. Donc théoriquement, je suis assez tranquille. C'est juste que je me protège en disant juste un mois. Mais en fait, j'ai régulièrement des gens qui me demandent longtemps après et je les ai toujours, quoi.
Mais tu proposes aussi des fois de...
Mais je ne facture pas.
Ouais. Et tu proposes de revendre à l'occasion d'un événement commercial, tu vois, je pense à Saint-Valentin, Noël ou quoi, tu proposes de refaire des tirages de ces photos-là?
Pas particulièrement. J'ai déjà pensé à le faire, mais ça fait partie des trucs où je me dis il faudrait que je mette en place une stratégie là-dessus. Mais je n'ai pas forcément le... j'ai pas encore enregistré un workflow là-dessus pour venir proposer régulièrement... Puis ça voudrait dire que du coup, je laisse justement toutes les galeries en ligne tout le temps parce que je pourrais pas... Là, je suis sur Photo Studio. Avant, j'étais chez Pixie 7. Il faudrait que je puisse repasser toutes les galeries en on pendant une durée limitée et puis après les repasser en off. Ou alors au contraire, les laisser tout le temps. Mais ça veut dire que si un jour, je veux plus les mettre, je me suis engagé à les laisser. Donc,
Tu fais la demande sinon. J'ai une pote qui fait ça. Ça marche plutôt pas mal.
Ouais.
Ouais, pour Noël, elle propose, ben, rappelez-vous, on a fait une séance ensemble. Si vous voulez, je refais des tirages ou on fait un livre, tu vois. Et après, les gens la contactent et du coup, elle renvoie les photos pour les montrer. Ouais. Et...
Après, moi, ce que j'ai fait récemment, mais c'est tout récent et j'ai pas encore eu l'occasion de le tester vraiment avec des clients, c'est que du coup, j'ai mis en place un formulaire de demande pour relivrer des photos parce que je facture pas le fait de les garder, mais si les gens me les redemandent, théoriquement, je disais que je pouvais le facturer, mais concrètement, dans les faits, je le facturais jamais. Et là, je me suis dit, maintenant, donc j'ai un formulaire où les gens peuvent demander. Ils payent des frais pour la demande de désarchivage, donc le fait que je les remette en ligne. Par contre, ces frais-là sont remboursés sous forme d'avoir pour justement prendre des produits. Donc voilà, du coup, ça... C'est quelque chose que j'ai fait il y a peut-être il y a quelques semaines de ça. Donc j'ai eu aucun retour là-dessus. Pour l'instant, j'ai aucune idée de si ça va fonctionner ou pas. C'est juste une idée que j'ai mis en place.
Ouais. Non, c'est cool. J'aime beaucoup la photo sociale pour ça, parce que moi, je m'intéresse beaucoup au marketing, à comment tu crées des offres, des produits, etc. Et je trouve que le jeu, il est sans fin, en fait, dans votre métier, parce que tu peux... Déjà, la typologie de clients est super large. Leur pouvoir d'achat est pareil, très, très, très divers et varié. Et tu peux proposer des packages avec des trucs physiques, numériques, très ingénieux, très créatifs. Ce que tu peux pas trop faire dans, je trouve, la photo, le photojournalisme ou la photo d'art, c'est un peu plus limité.
Ouais, effectivement, c'est pas du tout le même domaine. Ouais.
Et du coup, c'est vachement bien.
Et après, tu vois, je repense à ça, tout à l'heure, on parlait de concurrence. Tu vois, alors, tu vas avoir des clients qui vont revenir, ils ont eu la grossesse, le bébé, ils reviennent pour l'anniversaire, ils reviennent pour le deuxième enfant, ils reviennent pour le mariage, etc. Et moi, tu vois, à l'inverse... Ça m'est arrivé aussi. Là, tu vois, en un an, on a fait des photos de famille avec 3 photographes différents. Et du coup, je me dis, en fait, c'est carrément possible aussi que des mêmes clients soient clients de plusieurs photographes sans que ce soit un problème, en fait. Moi, tu vois, encore récemment, j'ai eu des clients qui sont venus faire les photos de grossesse avec moi. Et au final, en photo de bébé, ils voulaient un style bien particulier qui n'est pas du tout le style que moi, je propose. Et ils partaient chez une collègue que je connais très bien, avec qui j'ai moi-même fait des photos de grossesse. On avait fait des photos de grossesse l'une l'autre. Et puis voilà, enfin... Il y a aucun souci, on s'entend super bien. Et quand ils m'ont dit ça, ils étaient un peu gênés de me dire qu'ils avaient déjà réservé ailleurs. J'en dis, mais il y a aucun souci. En plus, je la connais, c'est une amie. Franchement, c'est super, quoi. Allez-y. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin, du coup, de s'inquiéter de ça. Tout comme moi, j'aime bien quand on va au restaurant ou qu'on sort dans des bars ou des choses comme ça. J'aime bien tester des nouveaux endroits où j'ai jamais été. Et du coup, je trouve que cette expérience, on peut la reproduire à l'infini parce qu'en fait, c'est toujours une nouvelle expérience. C'est toujours des nouveaux moments qu'on vit. Et une séance photo, c'est un moment à vivre, comme je te disais tout à l'heure, c'est une vraie expérience, donc c'est quelque chose qu'on peut refaire de manière régulière, qu'on pourrait se dire comme on va faire un voyage, comme on va aller se faire un spa, ben pourquoi pas aller se faire une séance photo, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais même je trouve dans vos relations entre photographes, le nombre de workshops qui existent, de photographes de mariage, tu parlais du Turc, qui en fait aussi, ou de Allison, c'est marrant de voir à quel point vous êtes super décomplexé sur le fait d'aller voir la technique des autres, vous l'accaparez volontairement aussi pour revendre derrière aussi. Tu vois, dans le milieu de la presse, ça n'existe pas.
Ouais, c'est
même inconcevable en fait. Tu vois, des gens n'ont pas envie de partager ou à la limite, ils vendent ça à des amateurs.
Ouais.
Tu vois, c'est toujours pareil, c'est des personnes qui sont à la retraite, qui font de la photo pour le fun, tu vois, qui ont un fort pouvoir d'achat, qui vont aller à l'autre bout du monde. Mais un jeune photojournaliste ne va pas aller prendre un workshop avec un photographe de presse qui marche bien, parce que déjà, il n'aura pas forcément les moyens, mais en plus, le vieux, entre guillemets, photographe, ne va pas forcément vouloir partager ses trucs. Il aura toujours cette vision, tu vois, du concurrent qui va lui piquer son travail.
Mais c'est dommage parce qu'en vrai, je pense que justement, c'est en tirant le métier vers le haut qu'on va tous avancer collectivement et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Après, moi, quand je te parle de ça, justement, c'est les réseaux de photographes que moi, je côtoie. Je pense qu'il y en a certainement qui sont dans cet état d'esprit-là et qui restent dans leur coin et qui ne se partagent pas. Donc en fait, là, tu vois, là, je pars la semaine prochaine à Chamonix faire le Rise Up.
Ouais.
Qui, je ne sais pas si ça te parle aussi.
Ouais,
un...
l'anglais,
ouais. Ouais, donc voilà, et là, apparemment, on est beaucoup. Je ne sais pas exactement combien il y a qu'il y a de personnes attendues, mais ça a l'air d'être un super gros événement. Moi, j'y vais même pas pour le côté technique, tu vois. J'y vais vraiment pour ce côté un peu colonie de vacances entre collègues et puis d'avoir ce. Parce que tu vois. On est tout seul dans notre studio à bosser dans notre coin et moi j'ai besoin d'avoir ce côté relation sociale et puis de voir d'autres personnes et puis de discuter, d'avoir ce côté machine à café où on échange entre collègues et puis on discute de ce qu'on vit au quotidien et je trouve que c'est hyper important aussi quoi. Et j'ai pas envie d'être dans mon coin à pleurnicher et à garder mes trucs pour moi en mode de, mon précieux.
C'est clair, c'est clair. Tu vas t'éclater parce que j'y suis allé. Alors, je suis pas allé à Rise Up, mais j'ai vu les chalets, je les ai visités pour potentiellement les louer aussi, faire un autre truc. Et c'est William qui m'avait filé le plan justement. Il est passé dans le podcast et puis il a fait partie de DR pendant quelques années. Et c'est magnifique. Les chalets, j'ai jamais vu un truc aussi beau, luxueux, au pied des pistes. Enfin, c'est.
Alors, c'est vrai que j'avais même pas vu, moi. Ça s'est fait un peu, je l'ai réservé un peu en dernière minute au salon de la photo, parce qu'il me restait des crédits FAFSEA que j'avais pas utilisés, parce que j'avais fait d'autres formations cette année, mais qui n'étaient pas prises en charge. Et puis, du coup, je me suis dit, allez, c'est con, quoi. On arrive en fin d'année, j'ai pas utilisé mes crédits, j'ai envie de faire quelque chose. Mais toutes les formations que je voyais, c'était beaucoup des trucs techniques, et concrètement, ça m'intéressait pas, parce qu'au bout de 10 ans, bah, la plupart des formations que je suis en technique, j'apprends plus grand-chose, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et du coup, je me suis dit, en fait, je cherche plus une approche dans le sens humain de pouvoir côtoyer d'autres personnes et d'échanger plus sur la façon d'être et la façon de travailler que sur des techniques vraiment précises en termes purement matériels et compagnie, quoi. Et du coup, bah, j'ai vu celle-là et je me suis dit, allez, go, on va aller là-dessus. J'étais dispo cette semaine-là. Et en fait, c'est après coup que j'ai vu que c'était dans un hôtel 5 étoiles et compagnie, que c'était dans un super lieu. J'avais pas du tout fait gaffe à ça. Et ouais, carrément, après. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui le faisaient tous les ans. Donc,
Ça m'étonne pas. Ouais, t'as un jacuzzi dans chaque truc, sur la terrasse, avec la vue sur les Alpes, sur Argentière. C'est magnifique.
Génial.
Ça donne envie. Hein. Même si tu suis pas les cours limites, c'est des bonnes vacances, quoi. Parlons justement de la formation un petit peu, parce que c'est le truc qui bloque aussi beaucoup de gens, et pas forcément que de la formation. À travers la formation, ce qui bloque, j'ai l'impression, c'est la question de la légitimité. Comment toi, t'as vécu ça, et par rapport au fait que t'es une femme aussi, même si quand on regarde un peu la FFPMI et puis la photo sociale en général, j'ai l'impression que c'est majoritairement féminin, cette partie de la profession. Peut-être que je me
Alors,
trompe,
la partie grossesse bébé, oui.
Ouais.
Mariage, je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes quand même en mariage. Je sais pas si c'est 50-50 ou si c'est. Enfin, mais j'ai pas l'impression que ce soit spécialement beaucoup de femmes. Après, je pense aussi que c'est parce que les hommes font plus entendre leur voix et que du coup, les femmes sont plus dans leur coin. Elles se montrent peut-être un peu moins. Ça faudrait. Je sais pas si tu connais Dorothée Machamber.
Non.
Je pense que si tu veux parler de ça, c'est avec elle. En termes de féminisme et de photographie, je pense que c'est la meilleure personne pour parler de ça.
Elle fait de la photo sociale?
Elle fait de la photo plutôt artistique, elle.
D'accord.
Enfin, je te laisserai voir ce qu'elle fait et puis peut-être discuter avec elle, mais elle est vraiment engagée sur le côté justement visibilité des femmes dans le milieu de la photo. Et bah, moi en soi, je sais pas si le côté femme m'a freinée ou pas. Je dirais que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis mise à mon compte alors que j'étais salariée avant. Parce que j'ai été salariée en tant que vidéaste au sein de l'éducation nationale. Et de manière générale, j'ai l'impression qu'en tant que femme, quand tu veux évoluer, c'est quand même encore plus compliqué qu'une évolution professionnelle classique. Tu dois encore plus te justifier et montrer que ce que tu veux et tout ça. Et je me suis au final, à mon compte, ben en fait, j'ai juste à prouver ma valeur, point final, et j'ai pas besoin d'aller faire valider que j'ai tel ou tel diplôme ou que j'ai tant d'expérience ou je ne sais quoi. Ben en fait, si je suis bonne, je vais gagner ma vie, quoi. Et voilà. Et du coup, je crois que ça a joué dans ma décision de me mettre à mon compte. Après, oui, évidemment, comme... J'ai l'impression à peu près tout le monde, j'ai subi le syndrome de l'imposteur. Et je l'ai toujours, si ce n'est que, on va dire que je vis avec et que j'ai appris à passer au-dessus. Mais c'est difficile parce qu'en plus, tu sais, quand tu. T'as ce truc où t'as l'impression que si t'enlèves complètement ton syndrome de l'imposteur, t'as peur d'être trop dans l'ego et trop dans l'orgueil et compagnie. Et en fait, c'est difficile de trouver le juste équilibre, de se dire, en fait, tu dois te vendre, tu dois dire que ce que tu fais, c'est bien, mais en même temps, faut pas le faire trop non plus, parce que sinon, on va un peu taper dessus, et en soi, bon, moi, je pense que ce que je fais, c'est propre, mais je pense pas non plus être la meilleure du monde, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je participe pas au concours et tout ça, c'est pas du tout ma came. Moi, mon but, c'est de faire quelque chose qui est bien, qui est réussi, mais pas d'être la meilleure, quoi. Je veux juste délivrer quelque chose de correct pour mes clients, et je pense que ce que je leur délivre est tout à fait correct, mais sans avoir un ego surdimensionné et sans penser que je suis la reine du monde et que, et que ce que je fais est mieux que les autres. Et, mais par contre, ouais, c'est vrai qu'au début, j'avais un manque de confiance en moi, comme tout le monde, je pense. Hein. Ouais. Puis après, je pense qu'il y a aussi l'expérience qui fait que du coup, plus tu fais, plus tu as les retours de tes clients qui se disent que c'est bien, et plus tu te dis quand même, ok, ça va... Je peux continuer, j'ai ma place quand même, quoi.
Est-ce que c'est pas un avantage aussi d'être une femme sur certains points? Par exemple, je pense à une cliente qui veut se faire prendre en photo en boudoir, par exemple, ou pour ouais. Parce qu'elle est complexe aussi sur son corps et tout. J'en ai parlé avec une amie il n'y a pas longtemps qui me disait « J'aimerais bien faire une séance comme ça, mais pas avec un homme. »
Ouais, bah ça, je le comprends carrément. Et clairement, ouais, si, j'ai pas mal de femmes qui disent qu'effectivement elles voulaient une photographe femme, ou même parfois, et des fois, c'est parce que le conjoint ne veut pas, même ne serait-ce que pour de la grossesse, hein, il y a des fois, là, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps, son mari lui proposait de faire des photos avec un ami à elle pour sa grossesse, puis elle fait « ouais, mais moi je veux faire des photos de nu, donc je suis pas sûre que tu sois ok », elle fait « ah ouais, non, effectivement, dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée ». Et donc oui, je pense que le fait d'être une femme peut être un avantage dans ce sens-là. Après t'as aussi le côté le côté inverse, c'est que du coup en tant que femme photographe qui fait du boudoir, bah tu reçois des demandes un peu cheloues par moment, et régulièrement j'ai des appels alors c'est marrant, c'est que c'est toujours par téléphone quasiment, et puis c'est des gens qui, voire parfois des numéros masqués aussi d'ailleurs, t'as des gens, tu te demandes si c'est vraiment une demande réelle ou... Donc, quand je sens que la démarche est à peu près sincère quand même, je renvoie éventuellement vers des collègues, parce que moi, je fais pas d'hommes, donc, enfin, je fais pas d'hommes nus, en tout cas. Ça m'est arrivé ponctuellement de faire des couples nus, mais sur une séance boudoir, par exemple, sur une séance underwater en grossesse, où, du coup, à la base, je fais souvent la femme nue, mais là, du coup, le mari était OK aussi, ils étaient partants tous les deux. Et ça s'est fait assez naturellement, sans qu'il y ait de gêne ou quoi que ce soit. Mais sinon, je le fais pas de manière générale, c'est pas quelque chose que je monte sur mon site. Donc je renvoie vers des collègues quand je sens que c'est sincère. Et puis très souvent, je sens juste que c'est juste des demandes un peu de détraqués qui ont juste envie de s'amuser un peu. Et dans ce cas-là, je les envoie un peu bouler, quoi.
Justement, qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui se lancent, les photographes un peu semi-professionnels, tu vois, c'est un peu...
Les faux FAUX photographes.
Qui font des collaborations avec des modèles.
Ah ouais, non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça. Mais c'est une cata.
Et puis c'est
tout vent. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que je suis plus trop dans les milieux où j'en voyais passer. Donc je crois que c'est pour ça que j'y pense moins maintenant. Mais il y a des moments, ouais, sur certains groupes Facebook, typiquement, ouais, t'avais. Tu sais, le gars qui a la cinquantaine minimum et puis qui s'achète un boîtier et puis qui veut faire de la photo, mais il veut faire que de la photo de femme nue, quoi. C'est la seule chose qu'il fait. Et puis c'est triste parce qu'en fait, t'as plein de femmes qui, du coup, se disent que comme c'est gratuit, du coup, elles vont faire ça et en fait, qui n'ont pas forcément la notion de se rendre... Et j'ai même envie de te dire, je me suis coupée en plein milieu de ma phrase toute seule, mais même t'en as même qui font ça de manière où techniquement, c'est beau. Mais ça n'empêche que la démarche derrière est pas correcte, et il y a des fois tu vois des trucs qui sortent dans la presse, justement des mauvaises expériences qui se sont super mal passées. Donc ouais, j'ai envie de dire, pour les femmes qui ont envie de faire des photos, il vaut mieux se tourner quand même vers des gens qui ont une réputation établie. Et puis c'est sûr qu'avec les femmes, bizarrement, il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est clair.
Et c'est triste pour les hommes, parce qu'il y a des hommes qui font ça super bien, et qui sont super professionnels et avec qui il n'y a aucun souci, et ils pâtissent un peu justement de la réputation de ce que d'autres hommes ont fait, malheureusement.
Ouais, c'est un peu, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres parfois. Après, je me rends pas compte, il y a eu des gros faits divers un peu vraiment sordides, du genre kidnapping.
Jusque-là, je pense pas, mais au moins des attouchements, ça arrive malheureusement très souvent. Voire parfois viol, puis j'ai envie de te dire, même j'ai plus son nom en tête là, mais celui qui s'est même suicidé, qui était hyper connu, David Hamilton.
David Hamilton.
Ouais. Tu vois qui c'est ? Non ?
Oui, j'ai entendu parler, mais ok. Ah oui, mais c'était pas en plein moment des MeToo, tous ces trucs ?
Ouais.
D'accord, ouais.
Et qui avait... Attends, c'était... Comment elle s'appelait, elle ? Flavie Flamand.
Ah oui, ok, d'accord. Oui, parce que c'est plusieurs années après qu'elle a témoigné, parce qu'elle était mineure, non, à ce moment-là, ou presque, ou un truc dans le genre.
Ouais, elle était mineure, en fait, c'était carrément de la pédophilie. Mais du coup, ouais, donc David Hamilton, qui a été accusé de viol sur mineur, des années après, donc Flavie Flamand, qui était franchement adulte, hein, qui était devenue connue, etc., et il avait fait des photos d'elle quand elle avait... ouais, elle était ado, quoi.
Ouais. Ok, bon ben... Le podcast sur YouTube sera démonétisé, je te remercie. C'est pas, je rigole. Ok, et du coup, ouais, c'est... Pour venir sur la question des femmes, parce que c'est un truc qui revient... je crois qu'on avait parlé un petit peu quand c'était contacté au début sur le fait que je recherchais des femmes pour passer dans le podcast, parce que c'est une reproche qu'on me fait souvent, il n'y a pas assez de femmes dans le podcast.
Ouais.
Et en fait, c'est pas si simple que ça de trouver des femmes qui veulent passer dans le podcast.
Ouais.
Non pas que, comme j'ai dit, moi, dans ma tête, il y a limite plus... Je pense qu'on est dans un des métiers où il y a le plus de parité. Mais même, j'ai l'impression qu'en termes d'égalité salariale, enfin, moi, dans la photo, je connais plus de femmes qui gagnent mieux leur vie que d'hommes.
C'est vrai ?
Ouais.
J'ai aucune idée de ça. Hein. J'ai l'impression que c'est surtout que les hommes et les femmes font pas les mêmes photos. Mais après, c'est peut-être juste une impression. J'ai pas de chiffres là-dessus.
Mais surtout le fait qu'en termes de tarifs, que ce soit dans les trois branches de la photo, si on dit artisan, artiste, photojournaliste, artisan, artiste, tu fixes tes propres tarifs, ouais. Globalement, ou tu t'adaptes au marché, mais du coup, il n'y a pas de grille imposée par l'État ou par un groupe ou qui que ce soit. Et en photojournalisme, tu t'adaptes aux grilles qui sont fournies par la presse,
okay.
Avec un pouvoir de négociation plus ou moins restreint, mais du coup, les grilles, elles font complètement abstraction de qui tu es. Et même de tes diplômes, tu vois, moi j'ai jamais dit à un employeur ce que j'ai fait comme diplôme.
Bah concrètement, on est dans un milieu où les diplômes, on s'en fout complètement, quoi.
C'est ça.
Et donc on s'en fout que tu sois un homme, une femme. Après, je pense que la variable qu'il y a, c'est le fait que peut-être les hommes, globalement, sont meilleurs négociateurs que les femmes. Peut-être.
Alors, si tu...
Et encore que...
Je pense à ça, je peux te raconter une anecdote en termes de homme-femme. Moi, du coup, ça fait 10 ans que je fais de la photo et un peu de vidéo. Et l'année dernière, j'ai fait un reportage photo où j'avais aussi une vidéo à livrer sur un mariage. Et en fait, à l'époque, mon conjoint avait quitté son travail et on avait essayé de travailler un peu ensemble. Bon, au final, il a repris un travail parce que on avait du mal à bosser à deux. Mais du coup, il m'a accompagné sur ce mariage-là. Mais lui, à la base, il n'est pas du tout ni photographe ni vidéaste, quoi. Il bosse en restauration, ça n'a rien à voir. Donc je l'avais un peu briefé et tout ça, mais bon, voilà, il était là plus en backup qu'autre chose. Donc voilà, je lui avais dit ce qu'il devait faire. Et en fait, il a dû me renvoyer plein de gens qui sont venus le voir pour lui poser des questions techniques et lui demander ce qu'il faisait et compagnie, alors que moi, personne ne venait me voir. Alors que c'était mon travail à moi. Et en fait, les gens... Bah, ils ont vu un homme, ils se sont dit, c'est à lui que je vais aller poser les questions. Ils lui ont demandé sa carte plein de fois et tout ça. Et lui, il disait, bah non, mais en fait, c'est ma femme. Moi, je suis juste venue accompagner. Et c'est fou parce qu'en fait, j'ai l'impression que du coup, il avait plus de légitimité juste parce que c'était un homme. Et moi, bah, alors qu'en plus, c'était le même matériel et tout ça. Moi, j'avais mon sac à dos qui est floqué avec mon nom dessus et tout ça. Lui, il était en mode passe-partout. Il n'y avait rien qui faisait plus professionnel chez lui, quoi. C'était... Et il n'y avait pas un plus gros objectif ou je ne sais quoi, rien du tout, quoi. Mais juste, c'était un homme. Et en fait, on s'est rendu compte de ça au fur et à mesure de la journée. Et moi, je me disais, mais d'habitude, ça arrive de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne me poser des questions, mais c'est assez ponctuel. Là, ça n'arrêtait pas, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur d'autres mariages. Est-ce que la plupart des hommes sont effectivement souvent démarchés, enfin, si on vient souvent les voir ou pas. Mais nous, en tout cas, sur cette expérience-là précise, ça nous a vraiment choqué à quel point les gens étaient venus beaucoup plus le voir.
Ouais, je comprends. Oui, c'est le côté un peu... ouais, mais là, c'est presque historique et peut-être ancré chez l'humain que jusqu'à aujourd'hui, la femme a toujours été en retrait par rapport à l'homme dans le foyer.
Ouais.
Dans l'univers professionnel aussi, et du coup il y a ce truc, et j'ai l'impression que il y a beaucoup de femmes qui s'en servent de ça aussi. Alors tu vois, par exemple, je prends un exemple dans le photojournalisme. Il y a une photographe qui s'appelle Véronique de Viguerie, je sais pas si tu connais. C'est une grand reporter qui bosse pour beaucoup pour Paris Match, Le Monde. Okay. Elle bosse beaucoup pour Elle, le magazine Elle. Là, elle était en Jérusalem dans la bande de Gaza, et tu vois, en 2019 elle a gagné le Visa d'Or, qui est une récompense très très connue dans le milieu de la presse et très prisée, quoi. C'est un peu le Pulitzer français.
Ouais, ok.
Elle a gagné, et avec un sujet que seule une femme pouvait faire, parce que en gros, c'était un reportage au Yémen, et elle a réussi à traverser le pays, du nord au sud, grâce à une burqa. Elle était sous une
Ok.
burqa, elle planquait les appareils photos sous la
Ah ouais.
burqa, et quand elle passait les checkpoints armés, un homme n'a pas le droit de fouiller une femme. Et
D'accord.
du coup, en fait, elle s'est pas fait choper, et elle a réussi à faire des photos que personne n'a réussi à faire, en jouant ce côté, avec sa journaliste aussi, et la rédactrice qui était sous burqa,
Ouais.
et donc elles ont traversé le pays. Et tu vois,
Et un homme peut pas se déguiser d'ailleurs avec une burqa?
je crois qu'il y en a qui ont essayé, mais là c'est extrêmement dangereux quoi.
Ouais.
Là, tu te fais choper en homme burqa, c'est.
Ouais, j'avoue.
Je pense que tu disparais vite. Alors qu'une femme, même si elle se fait gauler avec les appareils photos, je pense que tu vois, il y a peut-être
Ouais.
aussi une tolérance. Mais tu vois, elle jouait sur ce côté, et j'en connais d'autres aussi qui me disaient qu'elle jouait elle jouait sur ce fait qu'on les prenait pas forcément toujours au sérieux, qu'elles étaient
Oui.
les outsiders de service, tu vois. C'est pour ça que ton anecdote, elle est super intéressante, parce que ça montre effectivement que un homme ne prendra pas une femme au sérieux naturellement, mais peut-être parce que c'est son tout le passif, toute son éducation, tout ce qu'on lui a mis dans la tête. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est réellement problématique dans le sens où qu'est-ce que tu fais de cette situation? Tu vois ce que je veux dire?
Alors, je sais pas, parce que d'un autre côté, par contre, alors j'ai l'impression que souvent il y a ce côté où les femmes sont censées être moins bonnes techniquement. Tu sais, c'est genre la technique, c'est le truc des hommes. Et les femmes, c'est plus le côté émotion, artistique et tout ça. Et moi, je sais qu'on me l'a même déjà dit en entretien, quand j'avais été embauchée à l'époque en vidéo, où ils voulaient une femme parce que justement, ils voulaient un regard féminin. Tu vois, il y avait ce côté où genre, les femmes sont peut-être moins bonnes en technique, mais alors qu'en soi, moi, j'adore la technique aussi, j'adore parler matos. Enfin, voilà, Mais je pense qu'en termes de stéréotypes, il y a peut-être ce truc-là qui peut être un avantage, par contre, tu vois, de se dire qu'il va y avoir une sensibilité féminine. Donc ouais, je pense que c'est peut-être cette partie-là que les femmes peuvent exploiter, si on veut dire, de surfer sur des stéréotypes.
Ce qui en soi est aussi un peu vrai dans la gestion d'entreprise, par exemple. Quand tu vois une entreprise gérée par une femme et par un homme, tu vois directement qu'il y a. Alors, ça dépend des caractères
Ouais.
de chacun, il y a toujours des contre-exemples. Il y a des femmes très masculines et des hommes très féminins.
Ouais, carrément.
Mais dans la façon de gérer un client ou gérer une situation conflictuelle.
Moi, j'adore gérer les conflits. Moi, c'est un truc. Tu sais, j'adore quand je reçois un mail d'un client qui, à la base, tu sais, où je vais sur le coup, je vais bondir sur ma chaise en me disant, mais comment il peut oser me dire ça? Et en fait, à chaque fois, je me dis, OK, on prend du recul, on souffle un coup. On relit ça calmement, on prend du temps, on répond pas dans les nerfs, et puis tout de suite après, il y a ce deuxième truc qui se dit, ok, où est-ce que moi j'ai merdé pour qu'il y a cette situation qui se produise, et donc du coup je vais prendre du recul et vraiment me remettre moi en question pour apprendre à sortir grandi de ce conflit. Enfin, je dis conflit, c'est un grand mot. En général, c'est des petites choses, c'est pas voilà, mais de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise plus et comment aujourd'hui là je peux régler le problème et qu'à la fin au lieu que ça se termine sur un avis négatif, bah, que ce soit au contraire parce que tu vois je trouve que quand tu es en conflit avec une entreprise, si le conflit il est bien désamorcé, tu peux être encore plus content que si ça s'était bien passé juste de manière neutre. Et donc du coup j'essaie vraiment de faire ça au mieux et je trouve que c'est hyper intéressant de manière enfin de prendre du recul sur soi et c'est comme ça que tu apprends en fait. C'est quand tu es face à des erreurs que tu apprends encore plus vite. Quand tout se passe bien, bah, tu continues sur ton petit bateau où tout est calme, mais tu vas pas aller plus loin en fait. Et puis après, tu vois, tu parles de la façon de gérer. Je pense que s'il y avait plus de femmes à la tête des gouvernements, il y aurait peut-être moins de guerre dans le monde aussi, quoi.
C'est vrai. Justement, bah, c'est ce côté empathique que peut-être les hommes globalement n'ont pas, quoi. Tu vois, enfin, aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode. Il y a même carrément des influenceurs. Ouais, t'es pas loin d'une ligne de chemin de fer, et du coup, mais je pense pas qu'on l'entende
Tu vois,
vraiment
c'est
dans
le
la
premier
vie.
train qui passe depuis tout à l'heure. Je t'avais dit qu'il n'y en
Ouais.
avait pas trop.
Mais je pense qu'on l'entend pas trop. T'as de plus en plus ces deux propos qui sont jugés sexistes. Tu vois, je pense à des mecs comme Jordan Peterson. Je sais pas si tu connais. Un Canadien qui fait beaucoup de conférences sur ça, un prof de psycho à la base, qui fait beaucoup
Ouais.
de conférences sur la différence homme-femme et le
Ouais.
fait que lui, son credo, c'est de dire un homme doit être par défaut une machine violente en quelque sorte,
Oui.
mais être capable de canaliser ça parce que c'est cette violence et ce sentiment de cette gestion du chaos qui permet de faire aussi avancer la société, parce qu'il y a une création, il y a une envie de dépassement de soi, d'aventure, d'exploration. Et en même temps, une femme n'est pas câblée pareil. Mais du coup, tu vois, tous ces propos, ils sont pris. C'est très clivant. Hein. C'est soit les gens sont très d'accord avec lui, et du coup, ouais, c'est vrai, machin. Soit c'est complètement faux, les femmes doivent être l'égale des hommes, etc. Et t'as une. Tu vois, il y a un détournement du. Enfin, une complexité du débat. Mais pour revenir sur la question de la photo, moi, je trouve que vu qu'on est dans un métier d'entrepreneur, tu vois, il y a cette logique d'être maître de son destin, maître de ses tarifs, maître de ce. Il n'y a pas une imposition du haut, tu vois, d'un patron. Mm-hmm. Tu es ton propre patron.
Complètement. Je vais remonter. J'ai pas écouté le gars dont tu parles, donc je ne peux pas avoir d'avis sur la question. Ouais. Et attention, je vais dire une phrase qu'il ne faut surtout pas sortir de son contexte. Je ne suis pas du tout pour l'égalité homme-femme. Et la suite de la phrase qui est importante, c'est que je suis pour l'équité. Et en fait, voilà, pour moi, l'équité est beaucoup plus importante que l'égalité. Et du coup, si on n'est pas pareil, on ne va pas forcément avoir envie des mêmes choses. On va pas forcément. Enfin voilà. Donc. Après, c'est une phrase vraiment très générale, ça vaut pour plein de choses, ça vaut pas spécialement pour le côté professionnel, mais voilà, il y a des métiers où il y a effectivement plus d'hommes que de femmes, parce qu'il y a plus d'hommes qui sont attirés par ça. Voilà, après, pour moi, c'est un débat qui pourrait durer des heures sur un tas de sujets différents, sur les jouets pour les enfants, rien que ça peut être un grand débat. Mais clairement, moi, je suis complètement pour l'équité, en tout cas. Et moi, tu vois, pour si on arrive à parler de tarifs, dans mon idée, quand j'ai fixé mes tarifs, je me suis dit mon but, c'est de calculer mon tarif horaire pour en créer ensuite mes formules et compagnie, pour que je gagne l'équivalent d'un SMIC de base. Donc ça veut dire que au minimum, si je rends le strict minimum, je gagne un SMIC. Et l'idée, c'est que si j'ai bien bossé, bah du coup, les gens vont me faire des ventes additionnelles. Enfin, je fais des ventes additionnelles à mes clients. Et donc, du coup, mon salaire va augmenter. Et donc, du coup, je gagne en conséquence de la qualité de mon travail. Et donc, ça veut dire que si je fais le service minimum et que j'arrive pas à vendre plus, bah en fait, je gagne le strict minimum. Mais évidemment, pas moins non plus, parce que on est censé avoir un salaire minimum en France. Ça serait quand même bête de gagner moins en étant à son compte, alors que. Quand on a son compte, l'idée, c'est quand même d'avoir une meilleure situation. Hein, c'est pas d'être dans une moins bonne situation. Donc voilà. Après, l'idée, c'est pour moi de se dire, si j'ai bien bossé, je vends plus. Et du coup, j'arrive à me dégager un meilleur salaire. Et puis, a priori, ça marche plutôt bien. Ouais.
Justement, t'as choisi quoi comme forme juridique pour ta boîte, par exemple? Et comment tu te payes? Tu te payes en salaire? Tu te payes...
Alors moi, j'ai commencé en micro-entreprise il y a une dizaine d'années et je suis passée en société en 2017. Donc, je suis en EURL. Et donc, c'est pas un salaire, c'est une rémunération du dirigeant, je crois qu'on appelle ça. J'ai ma rémunération fixe que je me verse tous les mois. Et puis après, en fonction du chiffre d'affaires et de tout ce qui ressort en fin d'année, je peux avoir plus. À savoir aussi que du coup, là, on est dans mon studio que j'ai acheté l'année dernière. Donc, je l'ai acheté à mon nom propre, et je le loue à... Enfin, ma société me paye un loyer, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est aussi quelque chose... c'est pas du salaire, mais en fait, c'est quelque chose qui, à la fin, m'appartient aussi. Donc, c'est aussi une façon, pour moi, de me rémunérer.
Mmh. Ouais, c'est bien comme montage.
Hein. Ouais. Après, je pense que le montage dépend des situations de chacun. Il n'y a pas un montage qui est mieux qu'un autre. En fait, tout va dépendre de la situation familiale, déjà. Si tu es marié, paxé, célibataire, si tu as des enfants, en fonction du... Si ton conjoint, il gagne un certain montant en fonction du nombre d'impôts que tu as, etc. Tout ça rentre en ligne de compte. Si, justement, tu es propriétaire ou pas, il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'il n'y a pas un statut à conseiller plus qu'un autre.
Carrément.
En fonction de ta TVA, si tu as beaucoup d'achats que tu prévois, etc.
Exactement. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir un comptable ou ne serait-ce que d'aller voir des experts comptables plusieurs au début pour croiser un peu les points de vue et exposer sa situation et ensuite...
Carrément. Et effectivement, voir plusieurs. Moi, je sais que j'en avais vu deux qu'on m'avait conseillé par l'entreprise qui m'avait... En fait, je suis passée par la BGE, qui est un organisme dans le Nord qui fait un accompagnement aux créateurs d'entreprises et qui est subventionné par la région. Donc, du coup, moi, ça ne m'avait rien coûté. Et donc, du coup, j'avais eu un super accompagnement avec ça. Je crois que ça existe un peu dans toutes les régions, même si ce n'est pas forcément le même nom, mais voilà, des organismes qui t'accompagnent. Et en fait, il m'avait donné deux noms de comptables, donc je suis partie voir les deux. Le premier m'a fait un speech super long en me détaillant tout ce qui était possible, en me donnant des conseils, etc. Et je suis partie voir la deuxième. Et elle, en gros, elle m'a juste fait son devis de combien elle allait me facturer. Et du coup, bah, en fait, le choix, il était vite fait, quoi. Le premier, il m'avait conseillé. Donc, je me suis dit, mais c'est lui que j'ai envie d'aller voir, quoi. Je sais même pas si elle était plus chère ou moins chère ou pareil. C'était même pas la question. C'est qu'en fait, il y en avait un où il y avait beaucoup plus de feeling. Et du coup, je me suis même appliqué ce propre... j'en ai tiré la leçon pour moi-même aussi. C'est de se dire que quand t'as des clients qui viennent vers toi... Il faut savoir donner, en fait, pour pouvoir recevoir derrière. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de se dire, si t'es juste là pour envoyer un devis, mais que t'es pas là pour écouter, pour répondre aux questions des gens, bah, faut pas s'attendre à ce que derrière, ils signent avec toi plus qu'avec un autre, quoi.
Bien sûr.
Bon, après, je dis ça, ça veut pas dire que je prends le temps avec tout le monde. Il y a des gens avec qui ça se fait super rapidement. Mais voilà, en tout cas, quand les gens ont des questions, faut aussi savoir prendre le temps. Et puis, il y a des fois, bon, on aura pris le temps pour rien. Ouais. Ça arrive aussi.
Non, mais c'est vrai.
T'as raison, il y a un truc qu'on oublie toujours, c'est l'expérience client. Et en plus, on est très difficile, nous, en tant que consommateurs, avec ça, tu vois, on apprécie et on est capable de le comprendre, qu'on ira facilement vers, dans un restaurant où on est mieux servi, même si la bouffe est un peu moins bonne, bah, si on passe un bon moment, c'est toujours mieux. Alors que quand on est entrepreneur, on n'y pense pas assez, en fait, on se dit que tout est acquis.
Moi, une des choses dont je suis très fière, c'est que sur les retours de mes clients, il y en a beaucoup qui, et des fois ils m'aident même des avis clients avant même d'avoir eu leurs images, et donc du coup c'est même pas tant sur la qualité des images, même si globalement en général ils sont contents, mais ce qui revient dans quasiment tous les avis de mes clients, c'est je les ai mis à l'aise. Et souvent ils disent voilà, j'étais stressée, j'avais pas confiance machin, et au final ça s'est super bien passé, j'étais mis à l'aise, et c'est vraiment le fil conducteur des avis. Et je me dis, c'est le principal, parce qu'en fait, ils arrivent, il y a des fois, bah, effectivement, il va y avoir le fait de se dénuder, etc. Et puis, il y en a beaucoup qui sont... Enfin, moi, quasiment tout le monde, je pense que presque tous les gens qui sont pas des mannequins pros, ils arrivent et puis ils te disent, ah, moi, je suis pas photogénique, alors moi, je m'aime pas en photo. Et au début, tu vois, quand j'ai commencé il y a 10 ans, tu vois, tu sais, ça te fout un coup de stress. Tu te dis, mais OK, en fait, ils s'aiment pas en photo, et ça veut dire que moi, je vais devoir faire avec quelqu'un qui a du mal. Et en fait, non, c'est juste la réaction que tout le monde a de base. Et au final, à la fin, ils sont encore plus heureux parce que justement, d'habitude, ils s'aiment pas. Et là, pour la première fois, ils vont s'aimer, quoi.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, il y a presque limite une question de thérapie ou de d'appréciation de l'image de soi et de ouais. Qui est peut-être encore plus vrai aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux, des applis de rencontres où ouais. Ta photo devient un argument de vente aussi.
Bah, j'en ai quelques-uns, moi. Quand j'ai des hommes en portrait, c'est souvent parce que c'est pour les réseaux sociaux.
Ouais.
Pour les sites de rencontres.
Ouais,
pour
Tinder et tout.
Ouais, c'est... Et peu importe les âges et compagnie, d'ailleurs. J'ai eu quelques femmes aussi dans la même idée, mais en tout cas, les hommes qui viennent faire des portraits, si c'est pas pour du pro, c'est souvent pour ça.
Ouais. Il y a quelques business qui s'étaient montés comme ça. J'avais entendu des photographes qui s'étaient lancés vraiment sur ça.
Et
ils accompagnaient même, ils avaient fait un package plus pour t'expliquer comment tu fais mieux ta description.
Attends, moi j'ai eu encore pire, enfin pire. J'ai trouvé ça à la fois génial et en même temps, j'ai pas envie d'émettre de jugement là-dessus. Je te raconte juste l'histoire. J'ai un client comme ça qui est venu faire des photos pour un site de rencontre. Et en gros, c'est un gars qui a pas le temps. Tu vois, il a une entreprise et tout ça, enfin voilà, il est débordé. Et en gros, il me disait, mais moi, j'ai pas le temps de discuter avec plein de femmes jusqu'à trouver la perle rare. Et puis, j'ai pas envie de me prendre des râteaux aussi, il y avait un peu de ça aussi, je crois, dans les deux. Donc en fait, il payait une agence avec qui il avait échangé, donc du coup, la nana le connaissait, ils avaient discuté et tout ça. Et en gros, la nana se faisait passer pour lui pendant les premiers échanges, et ensuite, là où ça collait, bah du coup, elle passait la main. Et du coup, je savais même pas du tout que ça existait. Et voilà, donc du coup, lui disait, voilà, c'est... Alors après, c'était quand même lui derrière, mais c'était juste pour faire les premiers échanges et puis pour écrémer un petit peu le...
Ouais.
Je me suis dit, bon, voilà, après, c'est un business plan aussi. Hein.
C'est clair.
Pas le temps de swiper, tu payes quelqu'un pour le faire. Ah, c'est marrant.
Même l'amour peut se déléguer.
C'est clair. Je crois que c'est dans un épisode de Oh, I Met Your Mother où il y a ça, où
ah ouais.
Tu sais, il passe, je crois que c'est au tout début, il passe par une agence new-yorkaise qui est censée lui, avec un algorithme super puissant, trouver la nana qui correspond au centre d'intérêt de Ted. Tu vois,
ah ouais, je me souviens pas, je l'ai vu en entier cette série, c'est une de mes séries préférées, mais je me souviens pas du tout.
Je crois que c'est dès la première saison en fait, et du coup il galère et tout, et elle lui dit, mais d'après les statistiques, si on doit trouver celle qui te correspond vraiment.
Mais si, un certain pourcentage à New York et genre il y a quasiment personne, c'est ça.
Oui, ouais, en fait, il y en a okay. Trois quoi, dans ouais. New York, un truc dans le genre. Ouais, c'est marrant.
Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qui tombe sur le parapluie jeune.
C'est ça, exact. qui est vachement... Moi, je trouve que cette série est vachement bien en termes de storytelling.
Ah, j'adore.
Et je pense que les photographes devraient se former plus au storytelling. Et je pense même, toi, tu dois le faire au quotidien aussi dans ton studio, le choix des tenues, le choix des lumières, le choix des fonds. Comment tu t'es formé à ça et est-ce que tu as vraiment cette logique ouais, de storytelling derrière tes images?
C'est marrant que tu dises ça parce que si tu montes dans mon bureau tout à l'heure, je me suis mis une affiche il y a quelques jours où j'ai écrit en gros storytelling avec un cœur pour bien me rappeler que c'est vraiment hyper important. Et j'essaye de le faire, mais je pense que je ne le fais pas encore assez. Et du coup, c'est un axe pour moi de progrès, de se dire d'aller encore plus là-dedans. Parce que justement moi c'est quelque chose qui me touche, moi j'adore le storytelling, en plus j'aime beaucoup écrire, mais j'ai pas forcément le temps d'aller à fond là-dedans alors que je voudrais encore plus être dans la qualité là-dessus. Après par rapport au déroulement d'une séance, moi justement tu vois, alors j'ai quelques tenues, j'ai surtout aussi beaucoup de tissus etc, mais j'ai pas envie d'avoir un gros dressing pour mes clients, parce que moi je dis aux clients je veux qu'ils viennent avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils aiment et avec ce qui les représente eux en fait. Et donc du coup, tu vois, typiquement, j'ai déjà eu des vêtements parfois qui venaient des grands-mères ou qui avaient été portés dans des moments précis. La dernière fois encore, il y a quelques jours, là, j'ai eu une séance grossesse, elle est venue avec un vêtement, sur le coup, son mari fait « t'as pas ramené ça quand même ?» Et en fait, elle me dit « mais c'est ce que je porte pendant toute ma grossesse ». Donc en fait, ça définit vraiment pour elle sa grossesse. Et au final, on a fait une photo où elle était hyper mise en valeur avec ce truc-là, une espèce de gilet, voilà, ouais, et vraiment, elle était... Ouais, c'était très cocooning, et très joli. Et au final, son mari était surpris. Elle fait, mais ouais, c'est vrai que c'est... Au final, ça rend bien. Et du coup, ouais, je suis vraiment dans cette idée de dire... d'avoir quelque chose qui va correspondre à la personne, en fait. Et dans ce côté aussi... sans aller carrément forcément dans le storytelling, mais en tout cas dans le lifestyle et dans cette idée de faire quelque chose de naturel. Même si je fais aussi un peu de posing, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui, au final, vont être mieux en posing et puis d'autres moins. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'être dans le lifestyle et d'avoir quelque chose de naturel. Ouais. Je me dis que le naturel est intemporel, en fait, ouais. Et que donc, du coup, ça devrait bien vieillir. Ouais. Donc même si il va y avoir aussi des photos peut-être plus posées, qui vont peut-être être plus kitsch dans le temps et qui vont peut-être moins bien vieillir, mais en tout cas, ce qui est naturel, ça sera forcément encore vrai et encore important dans 50 ans, quoi.
Ouais, carrément. Et storytelling, de toute façon, j'ai l'impression que c'est plus ça se fait de façon inconsciente,
ouais.
Plus ça marche. Donc au final, aussi bien pour toi en tant que prestataire, en tant que personne qui doit être formée là-dedans, je pense que si ça devient naturel, c'est encore plus fort pour le client, je pense.
Après, moi, je pense que c'est encore plus vrai quand je fais des séances à domicile, parce que du coup, tu es dans leur cadre de vie, et donc du coup, ils sont vraiment dans leur milieu, et après, moi, je discute énormément. Il y a pas de blanc. Enfin, tu vois, déjà, là, quand on fait le podcast, je parle beaucoup. Je parle beaucoup avec mes clients aussi. Je leur laisse pas le temps de se poser la question de est-ce que je pose bien, est-ce que machin. Non, je suis tout le temps en train de parler. Il y a pas d'espace pour le vide. Je comble en permanence pour qu'ils se sentent accompagnés tout du long. Et donc, du coup, je suis aussi beaucoup à l'écoute de leur histoire, de savoir qui ils sont, Enfin, voilà, j'ai été à un moment bénévole pour Souvenange. Si tu connais, qui est une association de photographes dans le deuil périnatal. Et bon, aujourd'hui, j'y suis plus, mais tu vois, ça m'arrive d'avoir des clients, j'ai encore eu le coup il n'y a pas longtemps, une cliente qui me dit qu'elle vient faire une séance avec ses deux filles et son conjoint, et en fait, elle a perdu un petit garçon entre les deux. Et ben, du coup, en fait, on en a discuté, et en fait, son petit garçon, on l'a intégré à la séance. Tu vois, il est décédé à quelques heures de vie, mais il a fait partie de la séance. Quand j'ai présenté les photos, le prénom du petit garçon, je lui ai demandé, il était noté sur les photos. Enfin voilà, et ça les a vachement touchés. Ils m'ont répondu après qu'ils avaient vraiment apprécié justement le fait que leur histoire soit écoutée. Et pour moi, ça fait intégralement partie. On revient sur l'histoire de l'expérience, etc. On n'est pas là juste pour faire des photos qui soient jolies. On est aussi là pour leur faire vivre quelque chose, quoi.
Ouais, c'est clair.
Écoute, on a parlé de plein de choses, c'est super intéressant. Pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais partager comme conseil à une jeune photographe qui aimerait se lancer dans ce que tu fais là, comme toi il y a 10 ans? Quel est le conseil, par exemple, que tu aurais aimé avoir il y a 10 ans et qui t'aurait bien servi et que tu as compris avec le temps ou qu'on t'a donné peut-être?
Alors moi, je dirais qu'un de mes dadas, c'est l'organisation et l'optimisation, donc d'essayer de voir comment s'organiser au mieux. Pour travailler de façon rentable. Parce qu'en fait, c'est bien beau de se mettre à son compte, mais si c'est pour bosser 70 heures par semaine pour gagner 500 euros, c'est pas la peine. Donc, ok, certes, on fait un truc qui est cool, mais c'est pas une raison pour que ce soit la galère et que ça devienne et qu'on finisse en burn-out, quoi, en gros. Donc, faut que ça reste un plaisir et que ça nous bouffe pas toute notre vie, que ça reste à sa place. Et puis, s'il y a des investissements à faire, je dirais de les faire plus sur des choses qui sont justement dans la rentabilité et pas dans du matériel et des accessoires à tout vent, en fait. Je vois plein de photographes qui se lancent. Alors, leur plus grosse question, c'est ça va être quoi leur nom d'entreprise et leur logo et puis voilà. Et puis acheter plein de robes de grossesse et puis plein d'accessoires pour les nouveau-nés. Et puis voilà, plein d'objectifs et compagnie. Alors qu'en fait, quand tu démarres, c'est pas forcément ça le plus important. Tu peux très bien démarrer sans aucun studio, avec un appareil qui fait le job et puis un seul objectif. Et que tu arrives quand même à démarrer. Et puis après, tu fais les choses petit à petit. Au fur et à mesure, et il n'y a pas. Voilà, c'est d'investir correctement avec. En se voyant vraiment comme une entreprise et en faisant un budget, etc. De ne pas faire les choses sur des coups de tête, de faire les choses de manière réfléchie.
Ouais. Ça t'est venu comment? Parce que tu disais que tu venais de l'éducation nationale, c'est pas forcément l'endroit où on apprend le plus ce que c'est un business plan, ce que c'est une stratégie de budget, ce genre de choses.
Bah, je te disais tout à l'heure que j'ai été accompagnée notamment par la BGE, organisme qui accompagne à la création d'entreprises. Je pense que ça m'a pas mal aidée. Après, j'avais déjà été en micro-entreprise avant, mais en double activité, en étant vidéaste pour l'éducation nationale à côté. Donc du coup, ça m'avait permis de faire mes armes un petit peu, tranquillement, sans avoir le stress de se dire ce que j'ai comme salaire à la fin du mois. Pareil, gros conseil aussi, ne pas mettre ses prix au ras des pâquerettes, parce que c'est plus compliqué de les monter après. Donc il vaut mieux prendre le temps de faire les choses correctement, et si on n'a pas le niveau pour se lancer, on attend d'avoir le niveau pour se lancer. Parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile de changer une stratégie que de la créer dès le départ, en fait. Donc il vaut mieux faire des collaborations au début et faire des choses correctement pour avoir un book qui soit correct et puis se mettre tout de suite à des vrais tarifs plutôt que de se sous-vendre en se disant pour l'instant j'ai pas d'expérience, j'ai pas de clients, donc je vais faire un tarif pas cher, comme ça je vais avoir des clients. Non, ça marche pas. Ouais. C'est une mauvaise stratégie et c'est comme ça qu'il y a plein de photographes qui se lancent et qui arrêtent au bout de moins de 3 ans, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah, surtout quand t'as un rapport à l'argent qui est compliqué et que t'as pas confiance en toi ou que tu te sens pas légitime.
C'est ça. Mais donc du coup, il vaut mieux travailler pour devenir légitime plutôt que de faire pas cher parce qu'on se sent pas légitime, en fait. C'est pas une bonne stratégie.
Ok. Écoute, merci pour tous ces conseils. Et puis on renvoie les gens vers ton compte Insta.
Ouais, très bien. Insta, Hélène Douay, D-O-U-A-Y.
Ouais, et puis ton site internet aussi.
C'est ça.
Et puis ici, tes locaux à côté
juste
de Lille.
Juste à côté de Lille, ouais.
Super. Bah, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.